Décidément, le fait que le Mali a clairement demandé à la France de se retirer de ce pays sahélien et de ne plus disposer de base légale pour poursuivre ses opérations au Mali est tellement difficile à être accepté par ce pays qu'elle fait comme si de rien n'était et poursuit ses opérations sous divers prétextes. Lisons ce qu'en dit OPEX 360 à ce sujet. Sauf que Paris ne l'entend pas ainsi. La Convention de Vienne sur le droit des traités, donnant en effet un préavis de 12 mois avant la rupture définitive d'un accord, sauf si l'une des parties a commis une violation manifeste, auquel cas la dénonciation peut être immédiate. D'où les accusations d'espionnage et de subversion lancées par Bamako contre Barkhane. Accusations qui, pour les autorités françaises, n'ont aucun fondement. Aussi, malgré l'attitude de la junte malienne, les forces françaises continuent de mener des opérations contre les groupes armés terroristes, en particulier pour sécuriser leur retrait du Mali et plus largement leur réarticulation au Sahel. Alors qu'elle a récemment transféré la base avancée de Ménaka à l'armée malienne, Barkhane vient d'annoncer qu'elle venait de capturer un certain Oumeya Ould Al-Bakaï, décrit comme étant un cadre de haut niveau de l'État islamique, au Grand Sahara. Alors que la France s'est littéralement fait mettre à la porte du Mali, car le pays ne pouvait plus voir un seul soldat français considéré comme des occupants, elle semble avoir décidé de mettre en œuvre de nouveaux plans, premièrement afin de sauver la tête de ses effectifs terroristes, basés partout au Mali depuis plus de 8 ans, et deuxièmement afin de réduire l'humiliation qu'elle a subie devant toute l'Afrique. De son côté, le Mali ne reste pas le bras croisé et commence à retirer ce soldat du G5 Sahel. C'est le chef d'état-major des armées du Mali qui en a donné l'ordre mardi 14 juin. Dans un document classé confidentiel, le général Oumar Diarra met fin à l'engagement des soldats maliens affectés au poste de commandement du G5 à Bamako, au fuseau ouest à Nema en Mauritanie et au fuseau centre à Niamey au Niger. Au total, près de 1 400 hommes sur les 5 000 que compte la force conjointe au G5. Des dispositions ont par ailleurs été prises pour le rapartiment des militaires maliens en poste dans les pays voisins. Quant à se baser à Bamako, ils seront réaffectés dans leur service d'origine dès le 1er juillet, dans 2 semaines. Il y a quelques jours également, l'armée française a dû quitter officiellement les bases militaires de Ménaka, dans le nord-est du Mali, et a remis les clés aux forces armées maliennes. Quoi qu'il en soit, les prétendues opérations d'élimination des chefs terroristes au Mali n'ont plus de crédibilité pour les Maliens. Les plans français sont tous dévoilés, aux yeux du peuple et du gouvernement, d'où l'accélération du retrait de Barkhane de ce pays sahélien. Depuis plusieurs mois maintenant, les exactions de la France contre le Mali et même contre plusieurs autres pays d'Afrique sont mises au grand jour et le rôle trouble de Paris ne trompe plus personne au Mali. Alors qu'au Sahel, l'axe Suez-Otan est totalement désemparé, c'est désormais dans les pays de la côte qu'il mise de mettre en œuvre son nouveau plan de déstabilisation. Le sous-secrétaire d'État adjoint chargé de l'Afrique de l'Ouest au département d'État américain, Michael Gonzalez, a achevé mardi un séjour de 72 heures à Cotonou, à l'occasion d'évoquer les défis sécuritaires auxquels le Bénin fait face, alors que le pays est secoué par les groupes terroristes dans le nord du pays, mais aussi de par les démocraties, quelques mois avant les élections législatives prévues pour janvier 2023. Défis sécuritaires, démocratisation des élections législatives, ce sont les deux mots-clés des propos de Gonzalez. En effet, alors que le Bénin opte de plus en plus pour une alliance avec l'Axe de l'Est, le clan Suez-Otan se sent de son côté de plus en plus en danger. Le ministre des Affaires étrangères de la Fédération Russie, Sergueï Lavrov, et son homologue béninois Aurélien Agbenonci ont échangé le 4 juin 2022 des télégrammes de félicitations à l'occasion du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux nations. Dans son message, Sergueï Lavrov a hautement apprécié le niveau des relations traditionnellement amicales entre la Russie et le Bénin, fondées sur les principes du respect mutuel et de la proximité des approches des questions d'actualité de l'agenda international et régional. la partie russe a exprimé sa volonté à poursuivre le travail commun visant à renforcer la coopération bilatérale et maintenir le développement durable sur le continent africain. On se rappelle qu'en décembre 2021, le Bénin avait fait face de plusieurs attaques terroristes ayant des frontières assez importantes avec le Burkina, le Niger et le Nigeria. Une infiltration au Bénin pourrait ouvrir la voie à plus de déstabilisation dans ces pays africains. Le chef du DSGE avait déjà mis en garde début 2022 contre la violence terroriste qui, selon lui, arriverait à la côte depuis le Sahel. Mais il ne faut pas oublier le deuxième mot-clé des propos du chargé de l'Afrique de l'Ouest au département d'État américain, les élections. Les élections ont toujours été pour l'axe occidental un outil de manipulation et de déstabilisation. Michael Gonzalez a rencontré mardi le président du parti Les Démocrates, Eric Koundé-Té. Pour l'opposant, le diplomate était dans une démarche d'écoute et de collecte d'informations. Par rapport aux législatives prochaines, nous avons formulé des préoccupations tendant à rendre crédibles les élections. Que notre pays recouvre son identité de pays de démocratie, il n'a pas pu se prononcer. Il a estimé que dans une démocratie que tout le monde ait la chance de participer à une élection. Tout ceci est d'autant plus important quand on sait que le président Talon, dont ses allants économiques ne sont plus un secret et qu'à ce stade particulier devrait faire montrer d'un talent militaire. La panique se fait ressentir en Occident. D'ailleurs, les manœuvres de déstabilisation ou tentatives d'assassinat de dirigeants se sont multipliées ces derniers mois, mais se sont toutes soldées par un échec. Une nouvelle coalition de la société civile voit le jour en Centrafrique. Le groupe d'action des organisations de la société civile pour la défense de la Constitution du 30 mars 2016, ou G16. Elle compte mobiliser contre le projet de réforme constitutionnelle des partisans du président Faustin Archange Touadéra qui permettrait à celui-ci de briguer un troisième mandat. Mais à qui nuit un troisième mandat de Touadéra? Luc Michel, géopoliticien, nous en dit plus.
Écoutez, le troisième mandat de Touadéra, il nuit évidemment aux Occidentaux, c'est-à-dire aux mêmes forces qui sont coalisées actuellement contre le Mali. On voit qu'au Conseil de sécurité, c'est un bras de fer entre la Russie, les États-Unis et la France sur la question du Mali. C'est la même chose en Centrafrique, qui est le deuxième point d'ancrage de la Russie en Afrique. Touadéra est un homme jeune, il n'a pas fini son œuvre de redressement national. Il vient en particulier de faire un pas pour s'éloigner du franc CFA avec l'adoption du Bitcoin et le projet Songo qui est de transformer la Centrafrique en hub, comme on dit maintenant, pour le développement des investissements en Afrique autour du Bitcoin. Et dès lors, évidemment, il n'est pas question pour Touadéra que l'aventure commencée en 2015 se termine aujourd'hui avec un deuxième mandat. La thématique des deuxièmes mandats, elle a été imposée à la suite du discours de la Baule par François Mitterrand. C'est une thématique des États-Unis inspirée par George Bush père et le Nouvel Ordre mondial, évidemment qui ne correspond pas à la tradition africaine. Le but en ôtant, c'est que en ôtant le pouvoir à Touadéra, on remette en place un président faible qui doit au mieux tout reprendre à zéro et au pire qui sabote l'œuvre de Touadéra. Le mouvement des cœurs unis, qui est la majorité présidentielle, elle soutient évidemment le mandat. Elle a déjà proposé un remodelage, une rénovation de la Constitution qui n'a pas été adoptée. Et maintenant, Touadéra a le choix entre soit faire passer en force le projet de changement de la Constitution, soit de le faire en douceur. Contre lui, il y a l'opposition qui se dit elle-même démocratique, mais qui sont les héritiers des partis politiques qui ont soutenu l'ancien système et le push de Bozizé en janvier 2021. Voilà donc la question de la Centrafrique. Et il est bien certain que les alliés de Touadéra au Conseil de sécurité, c'est-à-dire la Russie, mais aussi la Chine, qui soutient Touadéra à tous les votes, évidemment, soutiendront le passage à la nouvelle constitution et au troisième mandat.
Le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères de la Chine, Wang Yi, a eu mercredi une conversation téléphonique avec la ministre kényane des Affaires étrangères, Rachel Omamo. Les deux parties s'engagent à promouvoir davantage la coopération bilatérale. Notant que le Kenya est un partenaire stratégique et coopératif global de la Chine, M. Wang a affirmé que sous la direction des deux chefs d'État, les relations Chine-Kenya sont entrées dans la meilleure période de l'histoire, avec une confiance politique mutuelle qui s'approfondit et une coopération pragmatique qui ouvre la voie à la coopération Chine-Afrique. La Chine apprécie le soutien sans faille du Kenya sur les questions concernant les intérêts fondamentaux de la Chine et est prête à travailler avec le Kenya pour accélérer la mise en œuvre des résultats de la 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine, a déclaré M. Wang. L'Ouganda va mettre en service une méga-centrale hydroélectrique partiellement financée par la Chine. L'Ouganda mettra progressivement en service à partir de septembre sa centrale hydroélectrique de Karuma d'une puissance de 600 MW afin d'accroître la production nationale d'électricité, a annoncé le ministre des Finances, du Plan et du Développement économique Matia Kasija. Il a précisé que les lignes de transmission avaient déjà été mises en service et que la centrale tournerait à plein en juin 2023. Le projet, bâti tant en surface que dans le sous-sol, est financé par la banque chinoise Exim à hauteur de 85%, tandis que le reste est assuré par le gouvernement ougandais. Une autre centrale hydroélectrique financée par la Chine, celle d'Isimba d'une puissance de 183 MW, est déjà en service dans le sud-est du pays. L'avion anglais censé convoyer les premiers demandeurs d'asile vers le Rwanda reste bloqué au sol par la justice. En avril dernier, le Rwanda avait accepté d'accueillir sur son sol des migrants illégaux à destination de Londres contre un investissement britannique de 160 millions de dollars. Depuis, le projet est vivement critiqué par l'ONU et la cible de plaintes devant les tribunaux britanniques et européens. À peine démarré, le projet de coopération sur la migration annoncé par le Royaume-Uni et le Rwanda fait déjà face à ses premiers revers. Depuis le mardi 14 juin, le vol spécialement affrété pour convoyer les premiers migrants vers le sol rwandais est bloqué au sol par la justice européenne. En effet, depuis l'annonce du projet par les autorités rwandaises et britanniques, Londres fait face à des contestations devant les tribunaux de la part de groupes opposés à cette démarche. Le Mali va se retirer de toutes les instances du G5 Sahel à compter du 30 juin 2022, annonce le chef d'état-major des armées du Mali, général de division Oumar Diara, dans un communiqué. S'agissant des personnels en service au poste de commandement interarmé de théâtre de la force conjointe du G5 Sahel, leur désengagement prend effet à compter du 30 juin, avec reprise de service dans leurs armées à compter du 1er juillet 2022, précise le général de division. Le 15 mai 2022, le Mali avait décidé de se retirer de tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris la force conjointe, avait annoncé le colonel Abdoulaye Mega, porte-parole du gouvernement, dans un communiqué.